farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent, à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier.
Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer.
Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Donc cette année un petit peu différent puisque, eh bien, comme vous le voyez, pas vraiment de vidéo. Un petit peu, mais en tout cas on ne voit pas de tête, c'est peut-être tant mieux, vu des fois mon faciès. Enfin, du coup, on fait de l'audio cette fois-ci, et du coup, quoi de mieux que de fêter Noël avec des gens, tout simplement, c'est quand même beaucoup plus convivial. Et donc ce coup-ci, eh bien on reçoit Comics Grincheux. Bonjour Grincheux.
Salut, salut.
Voilà, écoute, je pense que tu es le mieux placé pour te présenter, donc je te laisse faire.
Ah, je sais pas, c'est avec ma mémoire poisson rouge, je sais même plus, est-ce que je sais qui je suis en cette fin de semaine?
Grincheux, normalement, tu es grincheux.
Je suis grincheux, attends, je me remets en condition. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Donc, hello, salut SN, merci pour l'invitation d'abord.
Bah de rien.
C'est très très sympa d'avoir pensé à moi, et puis en effet, tu as bien raison, hein. C'est toujours plus sympa d'être à plusieurs à Noël, c'est toujours plus convivial. On va se mettre dans un esprit festif malgré la situation actuelle. Ça va être bien sympa, je pense. Donc, je suis Comics Grincheux, je suis le rédacteur en chef de lescomics.fr, un site que je crois tu connais bien, SN.
Je crois, oui. C'est possible que j'ai fait un peu de corporatisme de temps en temps.
Ah ouais, il me semblait bien aussi. Donc voilà, lescomics.fr, site de vidéastes, de reviewers, de podcasters, bref, on fait de tout sur les comics, on parle de à peu près tout, et je suis un gros casse-couille, on peut le dire.
C'est déjà bien que tu le reconnaisses.
Ah bah ouais. Oui. Voilà. Si je le reconnaissais pas, on serait dans la merde, je pense.
Et donc du coup, on a choisi un peu tous les deux donc te parler d'un titre en particulier, est-ce que tu veux le présenter ?
Eh bien, ah oui, je peux tout à fait le présenter.
Eh bien, vas-y.
Donc, alors, on a choisi de parler de Power Man and Iron Fist Sweet Christmas Annual, donc un épisode en fait spécial de la série Power Man and Iron Fist, qui date de... Alors, attends, je retrouve juste rapidement la date.
Pour le numéro ce coup-ci.
Très bien. 2017. Très, très bien, merci. J'allais dire 2016, donc tu as bien fait de me rattraper.
2016, c'est le début de la série en elle-même.
C'est ça, ouais, ok, c'est le début de la série. Donc voilà, annual de la série Power Man Iron Fist, écrit par David F. Walker, habituellement dessiné par son comparse désormais de Bitterroot, dont je viens de perdre le nom, Sanford Green, voilà. Mm-hmm. Et puis, donc cet annual est dessiné par Scott Hepburn. Donc,
c'est ça.
C'est un dessinateur qui est plutôt qu'on voit assez régulièrement chez Marvel ou chez DC Comics, oui. Qui a un style assez particulier. Et donc, Sweet Christmas, si vous ne lisez pas trop la VO, vous ne savez peut-être pas forcément, mais c'est un peu l'expression fétiche de Power Man, donc Luke Cage. Et donc forcément, c'était une très très bonne idée de faire un numéro spécial sur Noël avec ces deux personnages-là, puisque voilà, Power Man aime beaucoup dire Sweet Christmas.
Dès qu'il y a
un petit problème.
Ça j'étais très content que ça le fasse. Ça avait même fait, c'était passé dans la série télévisée, en tout cas en VO. C'était, il disait vraiment tout le temps Sweet Christmas, et ça c'était trop bien.
Oui, c'était un des rares trucs bien que je retiens de cette série.
J'aime bien.
Il y
a des défauts forcément, mais j'aime bien Luke Cage et voilà ça. Voilà.
Ah, ça reste mieux qu'Iron Fist. Hein.
Très bien. Et du coup, tant qu'on est donc dans tout ce qui est un peu jugement, est-ce que du coup tu peux me dire ce que tu as pensé de ce titre-là ?
Du coup, c'est un annual que j'ai bien aimé parce que j'aimais déjà bien la série régulière. Les numéros habituels de la série Power Man Iron Fist me faisaient beaucoup rire. Il y avait une grosse gestion, une bonne gestion de l'humour et de l'action, un bon équilibre là-dedans. Et je trouve que David F. Walker écrit vraiment très bien le duo parce qu'il arrive bien à cerner les personnalités donc d'Iron Fist qui est légèrement agaçant, toujours en train de faire de la vanne, des vannes très très lourdes, mais qui en même temps aime énormément Luke. Enfin, ça se voit à chaque fois, il aime ce type et il aime en fait tout ce que Luke a, que lui n'a pas, la famille, donc avec Jessica, avec leur fille Dani. Enfin, Voilà, il y a tout cette forme, cette amitié qui est vraiment très très bien retranscrite, je trouve, entre les deux. Et cet annual-là met vraiment bien ça en exergue. Il rajoute un autre personnage en bonus qui est donc Jessica Drew, qui va intervenir aussi dans ce numéro-là. Et donc je trouve qu'autour de Noël, ils arrivent bien à cristalliser en fait tout ce qui fait le ciment de l'amitié entre Power Man et Iron Fist. Alors le numéro est un peu trop long, je trouve, à mon goût. Ça aurait été bien en fait que ce soit un numéro d'une taille normale de 20 pages. Là, c'est vrai qu'il fait 30 pages, donc on sent un peu à certains moments qu'il est en train d'étaler le truc. Mais je trouve qu'il gère bien, son récit et il le fait se dérouler dans un endroit unique. Donc ça marche vraiment bien, ça donne une atmosphère un peu de huis clos. Le récit est assez resserré. Et donc voilà, ça fait intervenir un monstre de Noël qu'on voit assez régulièrement maintenant, le Krampus. Et donc c'est un numéro que j'ai bien aimé. Là, je l'ai relu juste avant du coup de faire le podcast, de faire l'enregistrement. Et
C'est
ouais, c'est un
toujours mieux, c'est
numéro.
toujours mieux de le relire avant.
Oui, c'est toujours bien. Je me suis dit, on va réviser un peu quand même, histoire d'être prêt, de pas passer pour une grosse tâche, quoi. Ce sera bien. Mais ouais, c'est un numéro que je trouve cool. J'ai un seul bémol, c'est les dessins. Les dessins de Scott Hepburn, je trouve qu'ils sont, ils sont peut-être pas forcément aussi percutants que ceux de Sanford Green, qui est donc le dessinateur régulier de la série. Donc c'est juste un petit peu dommage sur ce côté-là. Je trouve son trait parfois un petit peu brouillon, même s'il a des compositions assez efficaces dans l'action. Mais voilà, je le trouve un peu brouillon et parfois un petit peu trop sage. Donc c'est un peu le gros bémol que je mets sur le numéro.
D'accord. Moi j'aime bien le trait pour le coup, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Bien sûr, c'est pas le même que dans la série, mais bon, on peut pas tout avoir en même temps.
C'est sûr.
Voilà. Mais ouais, non, moi aussi j'aime pas mal cet épisode. Donc tu parlais des invités, donc il y a Jessica Drew qui est donc Spider-Woman, et il y a aussi Damon Hellstrom, le Son of Satan. Voilà, et donc oui, c'est une histoire qui réutilise Krampus. C'est un personnage qui a pratiquement pas été utilisé dans l'univers Marvel en fait, pour le coup, qui est apparu juste avant en fait dans un numéro numérique du Ghost Rider Robbie Reyes, le Ghost Rider qui a pas tout à fait tout compris, qui du coup utilise une voiture. Voilà,
Oh, ça reste un ride, c'est bon, ça marche. En anglais, ça marche.
ouais, c'est ça, mais bon, c'est, tu vois, quand on dit un rider, tu penses
Oui.
à la moto.
Ouais, mais j'aime bien Robbie Reyes, donc.
J'aime bien Robbie Reyes, mais j'aimerais bien qu'il utilise une moto.
Voilà.
C'est vraiment juste le truc que j'ai. Bon, voilà. Et du coup, en fait, ouais, il est apparu, si tu veux, dans ces deux numéros qui sont sortis pratiquement en même temps, et depuis, on l'a pas revu. Donc
D'accord,
j'imagine
ah
que
oui.
c'était un truc qui a été tenté de lancer puis qui a pas dû prendre. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'est un bon petit numéro et donc on va commencer de suite à le raconter.
Ben oui, mais tout à fait.
Alors tout commence et bien la nuit de Thanksgiving, et bien tout simplement sur Times Square où un nouveau magasin et bien est en train de s'ouvrir et donc il y a une petite, enfin il y a une journaliste donc qui est en train de faire un reportage sur ce nouveau magasin. Et quel est-il ce nouveau magasin?
C'est le magasin Toyverse,
Oh là là.
avec le patron est magnifique, il a une magnifique chapka qui lui fait une tête juste 3 fois plus grosse que ce qu'elle devrait être.
Et une
Donc voilà,
moustache
c'est un
aussi, une toute
magasin,
petite fine
ouais,
moustache.
c'est ça, il a une toute petite moustache, on dirait un peu Salvador Dali, c'est vraiment magnifique. Et donc voilà, Toyverse, magasin qui va ouvrir sur Times Square 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour vendre un nouveau jouet en fait à la mode. Un jouet dérivé en fait d'un jeu vidéo à succès qui ressemble en fait à Pokémon Go. C'est d'ailleurs dit dès le début
C'est
dans le
ça.
numéro, c'est le jeu vidéo qui a concurrencé Pokémon Go. Et donc eh bien pour avoir encore plus de pognon, évidemment, un jouet physique va sortir qui sera utilisable dans ce fameux jeu vidéo. Alors je retrouve juste le nom de ce petit personnage
Ce sont
parce
les
qu'il a un nom qui...
Schneckies.
Voilà, c'est les Schneckies. Le
Et
Schneckies.
ouais. Et je suis un peu triste qu'ils aient placé juste la référence à Pokémon Go parce qu'en fait ça va dater le récit pour plus tard. Alors qu'en
Ouais.
fait on n'aurait juste pas placé la référence, en fait ça aurait marché. Ça aurait
Bah,
marché
ouais.
vachement mieux en fait.
Bah, carrément, surtout qu'en plus, je trouve que du coup, le Schnucky ressemble énormément à Gremlin. Donc, tu vois, ça rend encore plus intemporel, je trouve, le récit. Donc, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu dommage. Puis, c'est toujours le genre de placement un peu de produits qui font dater vite, assez rapidement le récit, puis qui sont pas toujours très très utiles. Donc, c'est un peu dommage.
C'est ça, donc on voit qu'il essaye donc d'être tout inclusif, il dit ah, ça respecte toutes les traditions donc bah, de fêtes de fin d'année, donc même Hanouka, Kwanzaa, ce genre de choses. Et donc en gros, ouais, donc, il essaye tout simplement de vendre son produit au plus grand monde en le rendant le plus lisse possible. Il y a même un petit eh bien slogan audio, voilà.
Oui, une petite
Nous sommes les
chanson.
Schnunkies, voulez-vous
C'est
rejoindre la
ça.
famille? Tout ça, tout ça. Et donc oui, comme tu disais, un magasin ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oh là là, je plains les employés.
Ouais, c'est clair, pour avoir bossé à cette période de l'année dans un magasin, c'est vraiment pas le truc, le moment de l'année le plus agréable.
Et donc l'on passe un mois plus tard, nous sommes le 24 décembre. Il est tard, et
Ah, il est
eh bien
tard.
ouais, il y a une ligne encore démentielle devant le magasin, et qui c'est qu'on retrouve dans cette queue pour rentrer dans le magasin?
Eh ben, c'est nos deux blaireaux préférés, Luke, Danny, Rand, donc Iron Fist, et puis Danny, la fille de Luke et Jessica.
Et donc du coup, on comprend qu'en fait c'est Danny qui les a en fait attirés ici, tout simplement pour acheter des Schnuckies en fait à Danny. Ah oui, du coup ça fait Danny, il faut que je trouve un truc
C'est ça, ça fait.
différent.
Bah, dis son prénom complet qui est Daniel, ça
C'est ça.
marchera mieux.
Ou je dirais Daniel ou Iron Fist. Voilà.
Ouais, voilà, ce sera peut-être
Donc
plus simple.
Daniel en fait a attiré donc Luke et sa fille Danny donc dans le magasin pour justement acheter des Schnuckies. Luke apparemment sait pas du tout ce que c'est. Et du coup, lui par contre, Daniel a vraiment été là, en fait, l'a fait jouer aux jeux vidéo et tout ça. Et donc du coup, il se dit, bah maintenant qu'il y a une version peluche un peu physique, eh bien, voilà, je vais lui acheter en bon tonton. Et donc du coup, bah la ligne avance pas et donc la petite s'endort. Et donc on passe en fait à 30 minutes plus tard, ils ont enfin réussi à entrer dans le magasin. On réveille Danny et quelle est sa réaction?
Elle est trop contente. Évidemment. Non mais je tiens quand même à noter un truc, c'est que ils ont attendu que 30 minutes quand tu vois la taille de la ligne
Ouais.
de la file d'attente. C'est franchement complètement improbable. Je
Bah.
tiens juste à signaler cette grosse incohérence.
Après, je sais pas, le magasin a l'air quand même super grand quand tu vois vraiment le truc. Ils ont un dinosaure géant, quoi. Moi, enfin, c'est la Batcave, quoi.
C'est
Voilà.
ça, c'est ce que j'allais dire, c'est la Batcave en fait.
Donc voilà, donc ils sont dans le magasin. Donc Luke Cage reste un peu derrière parce que lui il connaît pas du tout le truc. Et du coup Daniel emmène Danny eh bien aller chercher une petite peluche. Quand
Et
tout
il
d'un
chante la petite chanson.
tout à fait. Quand tout d'un coup le téléphone sonne et qui c'est qui est à l'appareil, qui est au bout du fil?
C'est la fameuse Jessica Drew dont on a parlé juste avant, qui eh bien, vient juste de donner naissance à son fils. Donc ça, si on veut suivre cette aventure-là, c'est dans la série Spider-Woman, qui, je crois, est inédite en France. Hein. Je ne crois pas que ce soit sorti
Oui,
en
on est.
français.
J'ai pas de souvenir. Je l'ai suivi en VO, donc ouais, j'ai pas.
Oui, moi pareil, je l'ai suivi en VO, donc très bonne série que je vous recommande si vous lisez la VO. Donc voilà, Spider-Woman vient de donner naissance à son fiston, et oh surprise, elle est dans le magasin, elle aussi, et elle a besoin d'un gros coup de main pour s'occuper de son fiston. Et comme elle sait que Luke est un très bon papa, qu'est-ce qu'elle fait?
C'est
Eh ben, elle
ça.
refile le bébé à Luke.
Parce que Luc a appris un peu sur le tas, il sait déjà comment s'occuper d'un enfant, et que bah, comme tout parent, en fait, n'importe qui a besoin généralement qu'on montre un peu comment on fait. Et donc du coup, bah, c'est un peu ça qui est fait, et donc du coup, tu vois Luc en fait qui prend le petit et qui arrive à le rassurer, qui en fait n'arrête pas de pleurer tout simplement.
C'est ça, il n'arrête pas de pleurer en fait le bébé. Donc, mais Luc est tellement grand et tellement confortable que ça rassure le bébé.
Ah, c'est sûr que oui, ça doit être confortable.
Surtout, on n'a pas précisé, mais il porte une doudoune matelassée
Ah
du
ouais.
plus bel effet, ce bon cher Luc. Jaune évidemment,
Bah oui.
puisque c'est sa couleur.
Bon, après, en même temps, je pense qu'il vaut mieux justement qu'il ait une doudoune pour pouvoir porter des gens, parce que rappelons quand même que normalement, sa peau, elle est quand même solide comme le fer. C'est un peu le
C'est
principe.
ça.
Notons aussi, si jamais on regarde vite fait dans le décor, qu'on voit déjà en fait
Oui.
quelqu'un passer au fond, qui est habillé en Père Noël et qui tient un gros trident.
C'est exactement ça. Oui, on voit en effet un personnage qui, quand même, pas l'air très content hein, quand on le voit à l'arrière-plan. Il
Oui,
a
non.
l'air de froncer les sourcils. Ça a l'air d'être un Père Noël qui a passé une sale journée. Donc,
C'est
on se
ça.
demande ce qu'il fait là.
Mais comme on voit plein de gens passer, du coup, on fait pas forcément attention. Voilà. Il y a même
Mais oui,
des...
mais.
Il y a même des gens qui commencent à se battre aussi un peu dans le fond et tout ça. Tu sens qu'il commence à se passer des choses bizarres.
C'est ça. Mais c'est l'esprit de Noël, ça aussi, mon cher SN. C'est les gens qui se battent dans les magasins pour avoir les jouets, c'est tout.
Ouais, malheureusement. Et donc du coup, Daniel et Danny, eux de leur côté, eh bien trouvent des peluches Schnuckies, pendant que du coup, Luke Cage et Jessica vont discuter eh bien parentalité et que le Père Noël à Trident, eh bien commence lui aussi à regarder des peluches Schnuckies et à dire oh, mon Dieu, il se passe des choses très très bizarres. Bref, on suit vraiment tout ça en fait séparé sur une double page en fait qui moi je trouve est vraiment vraiment bien.
Elle est super, ouais, elle est super, c'est ce que j'allais dire justement. Elle est super bien gérée en termes de narration, en termes de composition de plantes, justement. Je trouve qu'elle est vraiment très bien gérée. Et je trouve que ça restitue vraiment très bien l'esprit et les différences d'état d'esprit entre Luke et Daniel, donc Iron Fist. Luke, qui est très mature, très posé, très calme, qui va donc discuter parentalité avec Jessica, qui est complètement enfin, en panique, on peut le dire. Et de l'autre côté, Iron Fist, qui est donc avec sa filleule Daniel. Enfin voilà, c'est juste que Iron Fist est un grand gamin et ça se traduit vraiment très très bien dans cette séquence-là, je trouve.
Et d'ailleurs, moi j'adore voir Luke Cage comme ça, qui a commencé vraiment très très impulsif et très avec un lourd tempérament, et le voir mature comme ça en fait, et tout moi ça me fait super plaisir.
Ouais.
Et donc du coup, bon, on en apprend un peu plus sur l'univers Marvel. On sait que désormais, personne ne change une couche comme Wolverine. Et ça, c'est une information que je trouve importante.
En effet, c'est une information très 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 importante.
En même temps, forcément, il est là depuis très longtemps. Il s'est souvent occupé des jeunes. Voilà. Moi, ça me semble tout à fait logique.
C'est ça.
Et
C'est
de
tout à fait cohérent.
voilà. Et donc, voilà. La petite Dani, en fait, commence à trouver que quand même ces petites peluches, elles sont quand même bizarres, elles ont un mauvais regard, quelque chose comme ça. Et c'est là que, du coup, le personnage du début, Gustave, le gérant du magasin, arrive et apparemment connaît l'identité secrète de Diamond Elstrom, le fils de Satan.
C'est ça, qui donc était ce fameux Père Noël en fait avec son trident qui n'avait pas l'air très très content, qui a donc en fait débarqué au milieu du magasin, certainement parce qu'il sentait une menace maléfique.
Et oui, avec ses fameux sens. Et donc
C'est
du
ça.
coup, il se trouve qu'apparemment, ce Gustave, c'était tadadam, Krampus.
C'est exactement ça. On le voit se révéler dans une très très belle planche.
Alors, Krampus, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ou pas du tout?
Bah écoute, moi Krampus c'est un personnage, enfin en fait du coup c'est un personnage un peu mythologique en fait, un ennemi du Père Noël d'après ce que j'en ai compris. Donc on le voit dans ce numéro-là, tu as dit, alors moi je m'en souviens pas, tu vois qu'on le voyait dans la série Ghost Rider de Robbie Reyes,
En fait,
je me souviens.
c'est dans le numéro spécial Noël, justement.
Ah ok, bah je crois pas, ouais, oui bah je l'ai peut-être pas lu alors ce numéro-là, c'est peut-être
Bah,
pour ça aussi.
il avait été, du coup, lui, distribué uniquement en numérique à la base.
D'accord, oui, bah du coup je l'ai pas lu, c'est ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pas lu. Et donc ce Krampus que moi en fait j'ai vu aussi dans la série Klaus de Grant Morrison et Dan Mora, puisqu'il est au cœur d'un des épisodes de cette série-là. Donc voilà, c'est un personnage que finalement je connaissais assez peu, et au vu de ce que tu m'en as dit, c'est pas finalement si étonnant, mais c'est un personnage qui du coup a l'air de prendre un peu plus d'ampleur, enfin un peu plus d'ampleur, qui a l'air de prendre un peu plus d'importance dans la société américaine, puisqu'il y a eu un film d'horreur qui a été dédié il y a quelques temps. Alors, film d'horreur que je n'ai pas vu, mais
Oh,
d'après ce que j'en ai vu, c'est pas.
oui,
Ouais, ça a pas. J'ai pas l'air
tu
d'avoir
rates pas
loupé
grand-chose.
grand-chose.
Pour le
Voilà.
coup, ouais, ça fait partie de la tradition plutôt d'Europe centrale, du coup, autour du Père Noël et surtout de Saint-Nicolas, donc qui est beaucoup plus forte en Europe centrale que par chez nous, où on est plutôt passé au Père Noël. Si on doit le comparer à quelque chose dans notre folklore un peu français, ce serait peut-être le Père Fouettard. Parce que c'est un peu ça en fait, c'est quelqu'un qui passe un peu avant Saint-Nicolas pour prendre les enfants qui n'ont pas été sages en fait. Il y a des versions où en gros c'était un compagnon de Saint-Nicolas et du coup ça devient petit à petit vraiment l'anti-Saint-Nicolas au fil du temps. Et du coup comme l'Amérique en fait aime beaucoup avoir un adversaire à mettre à ses héros, donc forcément ils ont beaucoup repris on va dire ces dernières décennies. Le personnage de Krampus pour l'ériger vraiment en tant qu'adversaire du Père Noël. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve pas mal. Il y
Ouais,
a.
du coup, c'est finalement assez logique en fait, ouais, qu'on le retrouve plutôt pas mal ces dernières années. Puis c'est exactement le rôle en fait qu'il a dans la série Klaus de Morrison.
C'est ça. Morrison aime bien jouer avec les réinterprétations et les évolutions, donc forcément, il a un peu sauté là-dessus.
Ouais, c'est pour ça que Klaus, c'est très très cool.
Et donc du coup, donc Krampus se révèle dans toute sa splendeur, et du coup toutes les peluches semblent prendre vie, et du coup le fait que ça ressemble à des Gremlins est sans doute un peu fait exprès.
Oui, ça c'est une grosse référence. Du coup, comme je le disais, on le voit dès la première page, puisque le look des Snookies est très très ressemblant à celui des Gremlins. Et là, forcément, ils prennent vie. Il est très tard le soir, donc c'est plutôt quelque chose de cohérent. Et on va le voir un peu dans tout le reste du numéro. Ils se comportent vraiment comme des Gremlins, c'est-à-dire qu'ils sont complètement débiles.
Tout à fait. Et donc il y a un combat donc qui s'engage donc entre le fils de Satan et Krampus. Et voilà, donc Krampus essaye en fait de faire tout ça pour récupérer donc les âmes de l'humanité. Et donc du coup, et eh bien forcément tout le magasin est attaqué. Et donc du coup, nos héros qu'on a suivis jusque-là sont eh bien à différents endroits du magasin. Donc ils vont essayer donc de se mettre en place, on va dire.
Oui, bah c'est ça, on va les voir du coup chacun en fait, dans leur coin un peu combattre du coup les Schnuckies dans un premier temps en fait. Notamment Luke qu'on voit sortir de la réserve où il était parti discuter avec Jessica pour calmer le bébé de Jessica qui va éclater ces pauvres Schnuckies comme des gros malpropres.
C'est ça. T'as aussi donc Iron Fist et Danny, puisque du coup il a mis son costume.
Oui, enfin, il a mis sa cagoule surtout.
Oui, voilà. Oui, bah ça suffit. Avec les gros manteaux qu'ils ont, ça suffit. Et
Ouais.
donc du coup, t'as Iron Fist donc qui protège Danny et donc qui attaque avec une seule main et donc ses pieds. Et du coup, t'as tous les adultes derrière. Ouais, et puis nous, oncle Iron Fist, est-ce que vous allez nous protéger aussi? Oui, bien
Ouais, c'est
sûr,
ça,
alors.
le dialogue est très, très
C'est
le
ça.
dialogue est très très drôle à
C'est
ce
ça.
moment-là.
Et donc du coup, il dit à tous les adultes de protéger les enfants derrière, et lui, il va essayer de protéger tout le monde devant. Voilà. Ce que je trouve vraiment assez cool.
Oui, non, mais clairement, la séquence avec. Bah, c'est pareil, ça, je trouve que ça retranscrit bien qui est Danny, c'est que malgré tout, c'est quelqu'un qui veut toujours protéger les gens. Bon, bah, forcément, Daniel, c'est sa petite filleule d'amour, donc il va la protéger
Ah
avant
bah
tout,
oui.
mais il n'hésitera pas aussi à protéger tout le reste des innocents. Mais c'est ce moment-là, tu vois, justement, quand je disais que les dessins me décevaient, enfin, étaient un gros bémol pour moi dans ce numéro, c'est justement à ce moment-là que je trouve que c'est pas forcément très, très. Très très réussi. Je trouve que Scott Hepburn est bon dans les moments calmes, mais dans les séquences d'action, je le trouve
Ça
assez moyen.
a pas la patate de la série originelle, mais franchement, j'ai déjà vu bien plus pire.
Ah oui, non, mais il y a pire. Oh là
Voilà.
là, j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai
Oui,
juste
oui.
dit que c'est pas forcément quelque chose qui me convenait à moi.
D'accord. Et donc du coup, eh bien, on a vu à peu près comment nos personnages s'organisaient. Et donc du coup, bah, il est temps que certains rencontrent du coup le fils de Satan, puisque bah, nos héros ne l'ont pas encore rencontré. Et donc c'est Jessica et Luke Cage qui tombent dessus. D'ailleurs, il est super classe. T'as vraiment le costume de Père Noël en fait qui s'est fait ouvrir
Oui.
en deux. T'as son pentacle qui apparaît et tout. Moi,
Je
j'aime
trouve que
bien.
ça lui donnait un côté un peu ridicule, je trouve, et ça marche plutôt bien.
Le fils de Satan a peut facilement devenir un peu ridicule dans le dessin. Mais bon. Donc il se trouve que Jessica et le fils de Satan ont fait partie de certaines équipes récemment, et donc du coup, tu sens qu'ils sont pas forcément les plus amis du monde.
Oui.
Mais bon, il faut bien donc faire équipe, et donc là, le fils de Satan nous explique d'où vient Krampus.
Ouais, c'est ça, il nous explique un peu la légende donc qu'il est lié à Saint-Nicolas, donc au Père Noël, et que bah, c'est le Père Noël qui a réussi à chasser de notre monde, de notre dimension, à Krampus la dernière fois, mais que là, bah, il a fait un comeback.
C'est ça. Parce qu'en fait, il peut revenir en fait qu'à un moment spécifique dans l'année qui est Noël, parce que sinon, bah, c'est pas drôle.
T'imagines, il revient à Pâques?
C'est ça. Qu'est-ce que tu fous?
Qu'est-ce que tu fous là? T'as le lapin qui va lui débarquer dessus. Il va pas comprendre.
En plus, il y en a plein des lapins.
Ben ouais, c'est pour ça. Ils vont tous se mettre sur sa tête au Krampus. Il va rien comprendre, le beau.
C'est ça. Et donc du coup, il y a un... En plein milieu en fait donc du magasin, eh bien il y a une entrée vers un des enfers et donc l'enfer de Krampus. Voilà. Et c'est là donc que toute la petite équipe se retrouve. Donc Iron Fist et la petite Dani arrivent. Il voit qu'il y a Jessica Drew. Bon, on le met un peu au parfum et tout ça. Et on lui dit eh bien qu'il est temps d'aller taper Krampus dans son petit antre. Tout en sachant qu'on nous explique aussi que Krampus a utilisé tout ce qu'est la technologie moderne en fait pour gagner déjà quelque part un peu les âmes de l'humanité. Donc avec les écrans, avec le jeu vidéo, avec les jouets et tout ça. Donc justement pour commencer à les asservir. Et donc c'est pour ça que tout le monde avait un peu la ritournelle en tête. Et ce genre de choses.
C'est
Prend
ça, c'est ce
aussi.
qu'il leur explique, ouais, qu'il y a déjà du coup une invasion qui est en cours en fait, et que on voit sur une grosse double page plusieurs héros de l'univers Marvel en fait qui sont en train de se battre contre les Chnucky. On voit Kamala Khan, on voit Frank Castle, on voit le Docteur Strange, on voit aussi des Inhumains avec Deadpool, et on voit Speedy dans une magnifique petite vignette où il est en train d'enfiler son costume en pantalon de pyjama torse nu.
C'est
C'est une
ça.
vignette qui m'a beaucoup fait rire.
C'est ça, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup, ouais. Il y a Médusa, ouais, aussi, c'est... Non,
Ouais,
c'est...
il y a Medusa, il y a Deadpool. Enfin, ces vignettes-là représentent assez bien l'humour de David Dayfoulker. Et ça marche très efficacement chez moi.
C'est ça. Et donc, du coup, ils descendent quand même aux enfers avec leurs enfants. Parce
Oui, attends, on
que...
va pas les laisser derrière, non?
Oui. Après, justement, c'est une question qui s'est posée. Est-ce qu'on les emmène ou pas? Et puis, bon, bah voilà. Finalement, c'est quand même eux qui sont le... C'est quand même auprès d'eux qu'on est le plus sûr, c'est auprès des super-héros pour le coup. Et donc du coup, donc ils sortent du magasin et donc ils se trouvent un peu partout sur tous les écrans de Times Square. Ça fait beaucoup beaucoup d'écrans. On se demande comment il fait. C'est un démon, c'est la réponse. C'est bien,
Voilà,
c'est
c'est ça.
pratique.
C'est un démon, c'est magique.
Et donc du coup, t'as pas mal de blagues avec le fils de Satan et donc Iron Fist et Luke Cage dans le fond en fait qui se foutent un peu de la gueule du style un peu emphatique
Ouais,
du
c'est ça.
Son of
Bah oui, c'est
Satan.
ça, parce que on a en VO du coup une planche où le fils de Satan dit Taste my fury, donc goûte à ma fureur, et Iron Fist et Power Man ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de cette phrase, de cette réplique de Damon Hellstrom. C'est très très drôle.
C'est ça, et du coup, il se fait un peu. Le fils de Satan se fait battre sans vraiment de cérémonie, sans chichi ni pompon, ça va très très vite. En une seule
C'est
page,
ça, ça va,
il est à terre.
ça va très très vite. Ouais, en une seule case, hein, je crois qu'il se fait rétamer la tête. Enfin,
Oui.
c'est assez expéditif. Hein.
Et donc, du coup, eh bien, c'est aux autres eh bien, de commencer à eh bien, se débrouiller avec la horde de Gremlins qui tout simplement commence à se resserrer autour d'eux.
C'est ça.
Donc du
Donc voilà,
coup...
grosse séquence de baston des trois héros, donc Jess, Luke et puis Daniel, donc Iron Fist, qui vont bastonner les Gremlins notamment, qui à un moment donné attaquent Daniel,
La
et
petite.
que voilà, la petite Daniel, ouais, c'est vraiment très compliqué ce truc, hein. Donc la petite Daniel que Iron Fist s'empresse de sauver, et Luke s'énerve évidemment parce que quelqu'un a osé s'attaquer à sa petite fille chérie. Donc forcément, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de gremlins qui les attaquent,
No,
et
no.
le Krampus est en
C'est
train
ça.
de se la raconter comme un fou furieux.
Je note aussi que Jessica protège quand même donc le fils de Satan malgré ses réserves initiales, parce qu'on est
Oui.
à Noël, qu'il faut pardonner et tout ça. Et en effet, oui, le Krampus commence vraiment vraiment à se la péter. T'as Luke Cage qui est emmené partout, t'as Luke Cage et Iron Fist qui est emporté donc par tous les Kremlins vers le Krampus. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel?
Hein, on voit un
Ah là
traîneau,
là.
et on voit un personnage tout en rouge avec une canne, une capuche, une cape qui tombe du ciel. Et forcément, c'est ce bon vieux Saint-Nicolas.
Et qui arrive, tu aurais dû rester en enfer, Krampus.
C'est ça, on l'imagine avec sa grosse voix qui va avec sa grosse barbe.
C'est ça. Et donc du coup, Krampus ne comprend pas, il est censé être mort. Et donc du coup, il récupère donc l'aide des héros, il fait disparaître petit à petit les Gremlins en fait avec ses attaques, on voit vraiment qu'ils disparaissent dans un nuage de fumée. Et donc du coup, t'as tout le monde donc qui en fait attaque, tu vois vraiment donc en fait Saint-Nicolas qui en fait s'occupe des Gremlins et du coup Luke Cage et Power Fist Iron Fist même si Power Fist ce serait très bien aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Power Fist, ce serait très très cool
C'est
en
ça.
fait. Hein.
Et en fait qui s'occupe eh bien de Krampus.
C'est ça. C'est exactement ça. Il lui massacre la tête à gros coups de poing.
C'est ça. Et mais le coup final est bien sûr pour le bon vieux Nick, Saint-Nicolas. Ouais.
On pourrait l'appeler le Nick Fury à ce moment-là d'ailleurs.
Figure-toi qu'il y a une des premières histoires de Noël de l'univers Marvel classique, on va dire. Ouais, c'est, ça joue un petit peu sur cette idée-là.
très bon.
Voilà. Et donc du coup, eh bien, le Père Noël, il les remercie donc, de leur aide. Il n'est pas sûr qu'il aurait pu battre Krampus sans eux. Et donc en fait, il va le ramener en enfer et du coup... voilà. Tout le monde est là, mais vous étiez parti, tout ça. Non, j'étais pas parti. En fait, j'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et du coup, comme ça, Krampus en fait baissait sa garde et du coup a lancé son attaque, ce qu'il n'aurait pas forcément fait sinon.
C'est ça. Ça fait un peu la caricature du grand héros, tu sais, qui faisait croire à tout le monde qu'il était mort, mais c'est qui ça. En fait était bien vivant. On dirait un peu Gandalf, le mec.
Ah oui, c'est vrai.
Ça m'a un peu fait penser à ça. Mm-mm. Et donc oui, et puis on voit donc Saint-Nicolas qui repart avec le corps de Krampus.
C'est ça. Mais qui
réenfermer Krampus. Hein.
Qui nous explique quand même qu'il a fait plus que simplement regarder, qu'il a opéré en secret, qu'il venait en fait quand on l'appelait, comme par exemple quand un enfant demande quelque chose dont il a vraiment besoin. Donc on te laisse sous-entendre que le Père Noël a fait le rôle du Père Noël.
Ouais, ça c'est bien. Ça, c'est pas juste un guerrier. Voilà. Ça c'est beau.
Et donc en effet, donc il repart avec le Krampus et du coup il est voilà. Il leur explique que, donc le vrai sens donc de ces fêtes, c'est l'amour. Merci, on n'était pas au courant.
Ah
mais
bon
voilà, c'est ça. Et donc du coup il est fier d'eux et donc voilà, ça les laisse un peu. Enfin, il y a le Père Noël qui dit qu'on est fier de nous quoi. C'est pas mal.
C'est la classe quand même. Bah, surtout de dire ça à Iron Fist, c'est quand même quelque chose. Hein.
C'est ça, et donc du coup, Luke Cage nous dit qu'il sait même pas quoi dire, et je te laisse faire la conclusion.
C'est ça, et à ce moment-là, on a Daniel, la fille de Luke et Jessica, qui fait « Sweet Christmas !» et Luke qui dit « Je pense que ça suffira. »
C'est ça. Et donc voilà, c'est la fin, on nous dit « Bonne fête à tous !» et c'est trop trop bien. Voilà, ouais. C'est la fin. Alors... J'imagine que ton opinion n'a pas trop changé.
Oula, bah non, évidemment, mon opinion n'a pas trop changé. Ça reste toujours aussi bon. J'aime vraiment ce numéro. D'un grand amour. J'ai toujours ce bémol avec certains dessins dans les séquences d'action. Mais il y a quand même cette planche dont on parlait entre donc Luke et Jessica qui vont dans la réserve pour calmer le bébé de Jessica. Et puis de l'autre côté, Danny et Daniel qui cherchent leur jouet, qui cherchent le Schnucky, et puis Damon Hellstrom qui est en train de découvrir donc ce qui se passe dans le magasin. Là, je trouve que cette planche est quand même super efficace. Et enfin voilà, c'est un numéro qui est très cool parce qu'il a cet esprit de Noël et en même temps il a aussi l'esprit de la série qu'on a habituellement, toujours avec une ambiance bon enfant, mais aussi cet esprit très familial. Où l'entraide est importante, l'entraide dans les communautés et l'entraide entre les gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche à fond sur moi là-dessus. Il y a aucun souci.
Mm-hmm. Bah moi aussi c'est un numéro que j'aime beaucoup. Il a même remplacé en fait. Pour moi c'est devenu mon histoire de Luke Cage de Noël préférée, qui a remplacé en fait la première histoire de Noël de Luke Cage, qui figure-toi était directement c'est son septième numéro à Luke Cage, une histoire de Noël.
Ah d'accord, ah oui, ouais. Direct quoi.
C'est ça. Il y avait deux titres en fait. C'est soit It's a Sweet Christmas Luke Cage, qui a été rajouté un peu a posteriori, ou sinon le titre original c'était Jingle Bombs, avec des bombes en
Jingle
fait.
Jingle Bombs.
C'est ça. C'est des bombes en fait, c'est quelqu'un qui avait posé des bombes dans New York en plein Noël. Voilà. Et du coup, okay. C'était assez cool. Et du coup, eh bien, il se trouve que le numéro s'appelle Sweet Christmas quand même. Donc qui est un peu la catchphrase maintenant donc eh bien de Luke Cage. Et est-ce que ça te dit si j'essaye de te dire en fait comment s'est formée cette expression?
Ah oui, ça m'intéresse grandement parce que je t'avoue que j'ai jamais en fait de recherche là-dessus et pourtant c'est quelque chose qui m'interpelle souvent.
Eh ben en fait c'est quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. Très vite, on a essayé de lui donner en fait des catchphrases, et il se trouve que celle qui va vraiment prendre en premier, elle est dès son troisième numéro en fait à Luke Cage, et c'est Sweet Sister. Voilà, donc c'est vraiment une expression qui va vraiment beaucoup prendre. Elle va même se retrouver en couverture à un moment, mais c'est pas la seule qu'il va utiliser. Par exemple, dès son 8e numéro, il va utiliser souvent aussi une autre expression qui est Christmas. Juste
ah
Christmas.
Oui, Christmas. Okay.
Voilà. Et en fait, il faut attendre longtemps en fait pour que quelqu'un ait l'idée de combiner les deux. Figure-toi, il faut attendre le numéro 27, à un moment où en fait la série est renommée en Power Man au lieu de Luke Cage. Donc on est en 1975 et en fait c'est un scénariste remplaçant sur la série qui s'appelle Bill Mantlo, que j'aime beaucoup beaucoup.
Fameux Bill Mantlo.
C'est ça, qui arrive et qui donc combine les deux et donc qui fait Sweet Christmas. En fait, bon, bah, c'est un scénariste donc, qui vient faire de temps en temps faire des histoires en remplacement. Donc à chaque fois qu'il revient, il réutilise le terme, mais le scénariste habituel de la série, qui s'appelle Don McGregor, lui, le reprend pas. Donc pour l'instant, ça marche pas très très bien. Il faut attendre en fait le numéro 40 et un certain Marv Wolfman qui du coup reprendra l'expression. Et donc du coup, à partir du moment où un autre scénariste en fait reprend, c'est vraiment là le moment où elle va commencer à s'incruster. Et donc c'est comme ça qu'on a eu Sweet Christmas. Voilà.
Ok, d'accord. C'est marrant comme c'est toujours des scénaristes quand même qu'on connaît encore aujourd'hui qui inventent des trucs comme ça et qui sont ensuite repris.
Oui, oui, oui.
Parce que bon, Bill Mantlo, c'est quand même pas n'importe qui. Donc,
Marv Wolfman.
C'est toujours marrant ça. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. C'est marrant en fait. Comme, c'est vraiment toujours des scénaristes dont on retient encore les noms aujourd'hui qui arrivent à mettre une empreinte indélébile en fait sur les personnages.
Oui, c'est sûr ça. Bah, c'est pas pour rien dont on s'en rappelle en fait. Mmh. Aujourd'hui, on sait pas trop pourquoi on les utilise encore, mais quand on recherche, on voit pourquoi en fait. On voit la trace qu'ils ont laissée et ce genre de choses.
Ouais, et puis on voit que les traces sont vraiment souvent multiples en fait.
Mmh. Ah bah, c'est un art collaboratif et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore cet art, ce médium, tout simplement. Mmh. Et donc voilà. Je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on pouvait dans nos maigres moyens sur ce titre.
Je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. Mm-hmm. Mais surtout, vraiment lisez la série Power Man Iron Fist.
Tout à fait.
Et lisez aussi Bitterroot, du coup, que David F. Walker et Sanford Green font maintenant comme série en indépendant. Le premier tome est dispo chez iComics. Power Man Iron Fist, c'est une série en 3 tomes, qui est disponible en 3 tomes, donc chez Panini
chez
Comics
Panini,
France.
Ouais.
Ouais, donc c'est vraiment une série très très drôle et je trouve qu'il c'est à la fois une très bonne série Iron Fist, une très bonne série Iron Man, ça montre bien leur amitié, ça montre aussi bien
Power
quel point
Man, ce que tu voulais dire.
J'ai dit quoi?
T'as dit Iron Man.
Iron Man, merde.
Ah ben, je vais pas te jeter la pierre, moi j'ai dit Power Fist.
Ah, tu vois, on a fait les deux, mais sauf qu'Iron Man il existe.
C'est ça.
Donc oui, je disais, donc Power Man Iron Fist, c'est vraiment une très très bonne série, vraiment très très cool, très drôle. Mais aussi avec, en fait, il y a une espèce de micro-univers qui est créé dans cette série-là à Harlem et à Brooklyn, et qui est vraiment, qui est vraiment super bien, quoi. Mm-hmm.
Donc voilà, donc il va être temps de se dire au revoir, mais je te laisse, eh bien, si jamais tu as quelque chose à, je sais pas, parler un peu de toi, de ce que tu fais en ce moment, eh bien, c'est ton moment. Vas-y.
En tant que rédacteur en chef sur ecomics.fr, c'est vrai qu'on là la période du confinement c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sorties librairie. Mm-hmm. Mais on essaie quand même de continuer à faire de la review et puis on va prochainement enregistrer un nouvel épisode. Je pense qu'au moment où ce calendrier de l'avant sera disponible, on l'aura certainement déjà sorti. Mais voilà, on continue notre podcast indispensable où on revient dans chaque épisode sur un comics, un run, une histoire, un arc qui est considéré comme étant important au sein de la communauté comics, et on revient en fait en long, en large et en travers dessus pour savoir ce que nous, eh bien, on en pense et émettre notre avis et dire si pour nous c'est un indispensable ou pas. Voilà, c'est sur notre chaîne YouTube, c'est aussi sur les services de podcast. On a déjà fait 5 épisodes là.
C'est ça.
Le premier qui était sur Invincible où tu avais participé et c'était vraiment génial parce que Invincible c'est une excellente série.
Tout à fait.
Voilà, et puis après on a enchaîné, on a fait Civil War, on a fait Batman la cour des hiboux, on a fait Scalped, là le dernier en date on a fait Hawkeye, et donc le prochain ce sera sur un récit DC Comics, mais pour l'instant je ne dis pas ce que c'est, puisque si l'épisode n'est pas sorti vous aurez au moins la surprise là-dessus.
C'est
donc
ça.
Voilà, ça s'appelle Indispensable sur lescomics.fr, et c'est une émission que je suis très fier de faire, d'enregistrer avec toute l'équipe c'est vraiment là, encore une fois, c'est un travail collaboratif où vraiment on essaie à chaque fois d'avoir des personnalités différentes qui ont des avis différents sur les comics. Et c'est toujours vraiment très très cool de faire cette émission.
Je confirme, c'est super cool à faire. Eh bien écoute, je suis ravi de t'avoir eu avec moi donc dans cette émission. J'espère que ça t'a plu.
Ah ouais, ça m'a grandement plu. Merci encore une fois pour l'invitation. C'était vraiment, vraiment très très cool. C'est toujours un plaisir d'échanger sur les comics et surtout avec toi.
Bah écoute, merci. Donc voilà, donc on va se laisser ici et eh bien je vous dis à demain donc eh bien pour un nouvel épisode. Salut.
Salut.